Interview.
2 jours.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour RDWAS sur 107.5 FM et sur www.rdwa.fr. Avec moi dans le studio, Harold David, directeur du Théâtre de Die, qui est venu non seulement annoncer la programmation culturelle dans ce même théâtre de novembre-décembre, mais aussi faire un tout petit bilan du dernier festival Est-Ouest qui a eu lieu sur l'Italie du Nord-Est. Bonjour Harold.
Bonjour.
Alors justement, un petit bilan.
Alors, bah, c'était donc la 23e édition qui avait la spécificité cette année d'être consacrée à une ville et une région plutôt qu'un pays dans sa globalité. C'est une édition qui s'est plutôt bien passée voilà, en termes de qualité des échanges, des rencontres, etc. Après, c'est vrai que voilà, on s'y attendait un petit peu. C'est vrai que la fréquentation a été un peu moindre cette année. Je pense que c'est aussi voilà, le choix de la thématique qui voilà, était peut-être moins mobilisatrice que la découverte d'un pays dans sa globalité. Comme ça avait été le cas précédemment. C'est vrai que Trieste, ouais, beaucoup de gens d'ailleurs n'avaient pas forcément une idée d'où ça se trouvait, des enjeux qui pouvaient être liés à cette partie-là de l'Europe. Donc voilà, on ne va pas se raconter d'histoire. On a constaté quand même effectivement une petite baisse de la fréquentation. Néanmoins, voilà, il y a eu des échanges et des partenariats vraiment très 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 riches avec des acteurs du territoire, avec nos invités italiens et ou italo-slovènes. Et ça a été plutôt une belle édition, voilà, émouvante, riche de rencontres, d'échanges. Et l'an prochain, en 2014, donc on part sur une autre partie de l'Europe, avec du coup plutôt l'Europe du Nord, avec la Finlande donc, qui sera accueillie. Donc on va retrouver, disons l'année prochaine, une configuration du festival peut-être plus traditionnelle par rapport à ce que les gens avaient l'habitude d'identifier comme étant des contenus de la manifestation. Donc on a déjà quitté depuis un mois les rives de l'Adriatique pour aller voir un peu ce qui se passe du côté de la mer du Nord et de la Baltique.
Alors juste une toute petite question subsidiaire, est-ce que vous avez une idée des spectateurs ou des gens qui fréquentent votre festival? Est-ce que c'est plutôt des Diois? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs?
C'est un mélange des deux, hein, je crois, comme beaucoup de manifestations sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des gens du Diois qui fréquentent, qui sont d'ailleurs des spectateurs fidèles et depuis de longues dates du festival. Et puis des gens qui viennent d'ailleurs. C'est dans les dernières études qu'on avait faites, on est plutôt à 50-50 à peu près. C'est-à-dire que 50% de gens qui viennent de l'extérieur et 50% qui sont qui sont des Diois qui vivent ici à l'année. Donc on est sur un mélange des publics, en tout cas du point de vue de leurs origines géographiques. Voilà. Après, on constate évidemment, mais bon, c'est pas une surprise ou enfin c'est pas un scoop de dire ça. C'est vrai que dans la mesure où la programmation est pluridisciplinaire et revêt des choses très différentes en termes de public potentiellement intéressé par les contenus du festival. C'est sûr qu'on a une population de spectateurs plutôt d'un âge certain, voilà, pour tout ce qui concerne les parties débats, table ronde, etc. Où on est plutôt sur une moyenne d'âge 45 et plus, voire beaucoup plus, et un public plus mélangé en termes de tranches d'âge sur les propositions de spectacles vivants, sur les propositions cinéma. Voilà, c'est vrai qu'on essaye justement de rajeunir, si je puis dire, le public qui assiste aux rencontres, notamment grâce à tout le travail d'action culturelle qu'on mène avec nos partenaires de l'éducation nationale. Et c'est vrai que sur le festival, bah, cette année, il y a eu presque 2000 jeunes, voilà, qui ont pu participer à des différentes propositions et effectivement assister aussi à des rencontres. Donc on est sur un public de jeunes captifs. Évidemment, je pense, je suis même certain que si c'était pas dans le cadre scolaire, ces jeunes-là ne viendraient pas d'eux-mêmes écouter des écrivains italiens comme c'est le cas, ça a été le cas cette année. Néanmoins, voilà, c'est aussi comme ça qu'on forme ces jeunes à être ouverts aux littératures d'ailleurs, à des problématiques européennes et du monde. Donc, grâce à tous ces partenariats qu'on développe pour amener des publics spécifiques sur certaines propositions du festival, on arrive à avoir du coup une diversité de publics. Mais si on prend que les gens qui viennent par intérêt de leur propre chef au festival. C'est vrai qu'on constate cette segmentation en termes de génération par rapport au contenu proposé. Et bon, voilà, bah, c'est dans une certaine forme de logique, voilà, où c'est vrai que des rencontres, des conférences, etc., c'est pas spécifique au Festival Est-Ouest, ça attire plutôt des personnes d'un certain âge, on va dire.
C'est un gros événement. Vous en remettez rapidement après coup ?
Bah, on n'a pas tellement le choix. Parce que depuis 2011, où on gère le théâtre de Die, on n'a pas beaucoup de temps entre la fin du festival et puis la réouverture du théâtre pour la saison annuelle. Donc voilà, cette année, on était assez contents parce qu'on avait bien anticipé avant l'été la préparation de la rentrée du théâtre là, pour novembre-décembre. Donc du coup, on a pu quand même faire un break là, pendant les vacances de la Toussaint. Tout en ayant à la fois bouclé le festival qui venait de se passer et puis préparé la suite. Donc voilà, on s'en remet mieux aussi parce que on a changé de format cette année où le festival est plus dense mais plus court dans sa durée. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'accumulation de la fatigue, etc., on a plus vite récupéré, très clairement.
Et alors rappelle-moi, combien il y a de salariés qui travaillent dans ton organisation ?
Alors à l'association Festival Est-Ouest et à Denis, il y a 5 salariés permanents qui sont à plein temps. Et puis après, on a évidemment soit des intermittents du spectacle pour toute la partie technique liée à nos différentes activités, que ce soit sur le théâtre, sur le Festival Est-Ouest ou le Festival des Espiègleries. Et après, des prestataires qui interviennent sur certains aspects organisationnels. Voilà. Mais en termes d'emploi, en fait, ça représente 5 équivalents temps plein. Hors mission ponctuelle, d'intermittent, etc. Et 5 postes fixes à l'année.
L'important, c'est que vous teniez le choc et que vous ne continuiez à nous proposer des programmations de qualité.
On donc essaye, alors... en tout cas, ouais. Mais c'est vrai que c'est une grosse... Enfin, juste pour terminer là-dessus, il y a eu une grosse évolution. Moi, quand je suis arrivé en 2008, on était 3 à l'époque. Et il n'y avait même pas 1,5 équivalent temps plein. Voilà, donc c'est vrai que l'association, en 5 ans, a connu un développement de ses activités qui a permis aussi la création de ses emplois. Et donc on a été accompagné aussi par nos partenaires pour pouvoir justement faire que ces emplois soient pérennes et permettent d'avoir une continuité de l'équipe et que celle-ci puisse aussi se projeter réellement dans des postes au moins à moyen terme.
Alors c'est peut-être parce que tu as été très efficace à la chasse aux subventions. Enfin, je suppose que ça occupe une grosse partie de ton temps de trouver des financements.
Oui, ça occupe une grosse partie de mon temps, mais je ne suis pas un chasseur, voilà. Je tiens à le préciser. Je fais juste mon travail, voilà, et que le fait effectivement de rechercher des financements pour développer les activités de l'association, ça fait juste partie de mes missions en tant que directeur, ni dans un rapport de prédation par rapport aux subventions.
Je vois où tu veux en venir, c'est qu'il y a des gens qui t'auraient effectivement fait le procès que Festival Est-Ouest.
Ce ne sont pas des gens qui m'auraient fait le procès, ce sont des gens qui m'ont fait le procès.
Que tu étais omniprésent et que tu cannibalisais les subventions.
Et ça, je ne cesse de le répéter depuis longtemps. Les moyens qu'effectivement on a pu obtenir qui n'étaient pas présents auparavant, ils l'ont été parce que effectivement on les a sollicités, parce que effectivement les projets pour lesquels on les a sollicités ont retenu l'attention des financeurs en questions et qu'ils ont jugé pertinent effectivement de nous les accorder. Et tout le monde peut faire la même chose et faire le même travail, mais c'est du travail effectivement, c'est pas autre chose que ça. Et qu'en face obtenir des moyens, c'est pas juste pour obtenir des moyens, c'est pour faire des choses avec et développer effectivement un projet. Et à partir du moment où on est dans une société, en tout cas c'est le cas pour la France me semble-t-il, où les impôts des citoyens sont là pour permettre que des projets au service de la collectivité puisse voir le jour, je vois pas en quoi nous devrions être coupables de quoi que ce soit en allant solliciter des moyens sur des lignes budgétaires qui sont faites pour ça. Et c'est pas parce que les autres ne font pas ce travail-là que pour autant ils doivent nous en faire le procès.
Et rappelle-nous un peu la ventilation de tes sources de financement. Alors, c'est des sources qui viennent plutôt d'ailleurs.
Non, on est sur un modèle assez classique pour les projets culturels. de l'envergure dans laquelle on est actuellement. C'est-à-dire que on est sur un plurifinancement qui est à la fois local au travers de financement de la ville, de la communauté de communes, et puis ensuite on monte les échelons territoriaux jusqu'à l'État. C'est-à-dire qu'on a des subventions effectivement du département, on a des subventions de la région sur différentes lignes budgétaires de la région, puisque dans la région tout est catégorisé par lignes budgétaires différentes. Donc on sollicite effectivement des financements à la région. Il y a une ligne de subvention pour les festivals, une ligne de subvention pour les lieux permanents comme le théâtre de Die, d'autres lignes sur des programmes d'action culturelle spécifiques. Enfin voilà, donc on va effectivement solliciter ces moyens-là. Et puis au niveau de l'État via la DRAC Rhône-Alpes. Donc.
Mais plus précisément ?
En gros, ce que je sais de tête, en tout cas, c'est qu'on est effectivement sur un financement où il y a en gros 75% qui sont des financements liés à des subventions diverses et variées, et 25% liés à des recettes propres qui sont principalement générées par la billetterie, par voilà, ce type de choses-là. Après, la répartition, oui, bien sûr, on peut faire le calcul très, très précisément, mais voilà, j'ai pas les éléments, donc je ne vais pas dire de bêtises à l'antenne.
Eh bien, écoute... Sinon, alors, le programme de novembre-décembre pour le Théâtre de Die.
Donc c'est un programme voilà, qui s'est mis en place dans la perspective qu'effectivement on puisse continuer à proposer au Théâtre de Die un certain nombre de choses à partir de 2014, puisqu'on est aussi à contextualiser les choses. On a été depuis le mois de juin dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, puisque fin 2013, nous arrivions à échéance de la convention qui nous liait à la ville pour la gestion et l'exploitation du Théâtre de Die. Et donc, par conséquent, nous avons candidaté, et la ville, lors du dernier conseil municipal du 30 octobre, a décidé de conduire sa délégation avec l'association Festival Est-Ouest Théâtre de Die. Donc ça, voilà, ça nous permet de nous projeter à une échelle de 5 ans, puisque la délégation de service public est prévue pour 5 ans, donc 2014-2018. Et donc évidemment, on est heureux de cette confiance renouvelée de la part des élus de la ville. Et du coup, cette programmation, voilà, s'inscrit comme les prémices de ce qui va suivre derrière, qu'on avait un peu préparé, mais on attendait vraiment la décision pour valider une quelconque programmation à venir. Donc voilà, je suis obligé de mettre un peu en perspective pour expliquer les choix qui sont proposés là sur la période novembre-décembre.
Parce que, étant en suspens, vous n'osiez pas vous engager?
Ah ben c'est pas qu'on n'osait pas, c'est qu'on ne pouvait pas. On pouvait décemment pas signer des contrats, par exemple, avec des compagnies qu'on a envisagé effectivement d'accueillir sur 2014, sans savoir si effectivement on avait la capacité juridique pour le faire au travers de cette délégation de service public. Donc pour l'instant, on avait pris des contacts, évidemment, pour pouvoir rebondir si la ville prenait la décision qu'elle a prise, donc de renouveler la DSP. Donc effectivement, on avait voilà préparé les choses, mais on avait bien prévenu l'ensemble des artistes et des compagnies avec lesquelles on était en contact que voilà, ça restait en suspens jusqu'au 30 octobre et que ça se pouvait très bien qu'on ne soit pas en capacité d'aller plus loin que le stade du projet. Donc là maintenant, effectivement, on est dans une phase de concrétisation avec l'ensemble de ces artistes ou compagnies. Donc, eh bien, ce programme de novembre à décembre, il commence par la finalisation d'une compagnie du territoire qui s'appelle la compagnie Pire que Debout, qui va présenter un travail qui est encore en cours, qui s'appelle Rien dans le buffet, qui va donc proposer du théâtre burlesque avec une création, donc, hein, puisque c'est une compagnie qu'on a déjà accueillie au printemps dernier, qui revient à nouveau sur cet automne pour faire un temps de résidence au théâtre et qui va donc proposer ce spectacle qui est encore en cours de création, et on va inaugurer un petit peu le théâtre avec ça. Je parlais effectivement d'une cohérence avec l'ensemble de la programmation sur 2013-2014. La compagnie Pire que Debout, au même titre que deux autres compagnies qui sont la compagnie Kirkas Gaïa et la compagnie du Cirque Hirsute, font partie des trois compagnies qu'on va accompagner avec le théâtre de Die sur l'ensemble de la saison, toujours dans le souci de remplir, enfin d'abord parce qu'elles font un travail très intéressant, mais aussi dans le souci de remplir notre mission qui est d'accompagner justement des artistes du territoire au travers de cet outil qui est le Théâtre de Die. Donc là, on a porté notre choix sur ces trois compagnies-là.
Alors, tu as parlé d'une compagnie locale. D'où viennent-ils exactement?
Alors, la compagnie Pire que Debout, ils sont... Du du Diwa, après précisément ah oui. où je leur ai pas posé exactement la question, mais voilà, enfin ils sont implantés voilà, sur le territoire Diwa Vallée de la Drôme quoi.
C'est la première fois que j'en entends parler.
Mais parce que comme beaucoup de compagnies qui sont implantées dans notre belle région, ce sont des compagnies qui travaillent beaucoup en dehors du territoire et donc effectivement elles sont pas forcément connues sur leur base, je dirais, d'implantation et sur leur lieu de travail. Quoi, voilà. Donc en l'occurrence c'est le cas pour la compagnie Pierre Quedebout là qui tourne énormément en France et à l'étranger. Voilà, on va démarrer avec ça, ce sera le 21 novembre à 18h. Et puis le 22 novembre, donc à 18h30, on va présenter la programmation alors du coup de l'ensemble de la saison 2013-2014, puisqu'on sera en mesure de l'évoquer publiquement à cette occasion. Et donc il y a un certain nombre d'artistes de la programmation qui seront présents, qui vont venir parler des spectacles à venir jusqu'au mois de juin. Et ce sera suivi d'un concert de Karina Salvado, qui est une artiste qui s'inscrit dans la lignée des chanteuses de fado du XXe siècle, mais qui a la capacité de réinventer ce chant traditionnel portugais pour en faire vraiment quelque chose d'original et de grand public. Et c'est une jeune femme qui a une voix magnifique, qui est entourée de musiciens de grande qualité. Et donc, voilà, ce sera notre concert d'ouverture pour cette saison 2013-2014. On va continuer en décembre avec la musique, avec l'accueil de Michel Gentil et Shyamal Maitra, donc qui seront en concert avec leur spectacle qui s'intitule Intuition. Donc là aussi, ce sont des artistes de la région, en tout cas pour Michel Gentil, et qui se produiront donc le 6 décembre au théâtre de Die, plutôt dans un esprit musique du monde. Et également, ces deux artistes vont aller à la rencontre du jeune public au travers de plusieurs représentations au théâtre de Die, mais aussi sur le territoire, puisque ils vont se produire à Luc-en-Diwa, Châtillon-en-Diwa, et donc aller à la rencontre des enfants des écoles primaires de ces parties-là du Diwa. Voilà. Donc toujours en décembre, là on va proposer non pas un spectacle dans les murs mais hors les murs à la Comédie de Valence, donc qui on est en partenariat depuis plusieurs années maintenant pour emmener donc les spectateurs du théâtre voir la pièce La Bonne Âme du Sechuan, qui est donc une pièce de Bertolt Brecht, voilà, qui malheureusement par son contenu résonne tout à fait de manière contemporaine dans une mise en scène assez exceptionnel, voilà, qui sera visible donc le 19 décembre à la Comédie de Valence. Voilà.
Alors, je peux peut-être faire un petit interlude en rappelant que éventuellement tu vas nous envoyer préventivement une semaine, 10 jours avant, toutes les compagnies qui passent et on pourrait faire des interviews personnalisées de toutes les propositions que vous allez faire dans votre théâtre.
Tout à fait, oui, bah, ça fait partie de l'interaction qu'on a avec RDIWA et dont on est très heureux. Voilà, et puis parallèlement à cette partie programmation donc de novembre-décembre, le théâtre continue sa mission d'ouverture aux associations et structures culturelles ou non d'ailleurs du territoire dans le cadre de son dispositif de mise à disposition. Donc on a actuellement la compagnie Génétique qui est en accueil au théâtre et qui donc va présenter sa nouvelle création, l'adresseuse de curiosité, ce vendredi 8 novembre. On a ensuite un groupe vocal féminin amateur de bouche à oreille qui lui est Diwa, qui sera sur scène le samedi 16 novembre avec un nouveau répertoire, des musiciens, etc. Et toujours dans le cadre de ces partenariats et mises à disposition, on va accueillir l'association Himalayan Dialect, qui en décembre va proposer un certain nombre de rendez-vous pour collecter des fonds, en fait, pour soutenir la démarche de cette association qui vient en soutien à des enfants tibétains. Et donc, ils organisent un marché de Noël les 13, 14, 15 décembre et un concert donc, de soutien avec un groupe vocal qui s'appelle Les Vallonnés. Et ça, ce sera en décembre. Et sinon, ce que je peux évoquer aussi dans le cadre de, effectivement, du travail qu'on mène aussi, partenarial avec un certain nombre de structures du territoire, on a fait au mois d'octobre un partenariat avec le CLIC du Diwa. Donc, le CLIC est la structure départementale qui... coordonne, on va dire, la politique en direction des personnes âgées et handicapées. Et donc, en partenariat avec eux, donc on a accueilli la compagnie Songe, qui est une compagnie dromoise, pour proposer, dans le cadre de la Semaine Bleue, un spectacle intitulé Le Petit Bal des Bonnes Humeurs, qui a eu beaucoup de succès. Là, c'était il y a une quinzaine de jours, et c'était assez émouvant de voir toutes ces personnes âgées s'illuminer en compagnie de ces artistes. Et de la même manière, on a mis en place pour la première fois un partenariat avec le relais assistante maternelle du Diwa, donc qui est piloté par la communauté de, enfin, accompagné par la communauté de communes, pardon, pour proposer au mois de décembre également un spectacle réservé aux tout petits, donc vraiment entre 0 et 3 ans. Et donc ces jeunes vont venir découvrir, toujours par la compagnie Songe dont je parlais tout à l'heure, un spectacle intitulé Les rêves de Sidonie Couleur, et ça ce sera le 4 décembre. Voilà, et j'insiste sur ces partenariats parce que c'est aussi une manière de montrer que le théâtre est véritablement monde dans une ouverture à tous les publics, et qu'on fait vraiment de zéro. Je ne sais pas si on a eu des spectateurs centenaires, mais enfin, ils pourraient. Et c'est vraiment dans le cadre de nos missions de service public que de pouvoir être réactif, responsable et partenaire vis-à-vis d'interlocuteurs qui ne viennent pas forcément du monde culturel en tant que tel, mais qui ont en charge des publics. Et nous, on a pour vocation, en tant que théâtre de ville et presque de territoire, je dirais, avec depuis le mois de mai dernier, la labellisation en scène régionale que nous a accordée la région Rhône-Alpes, d'avoir cette ouverture-là et de développer des actions en direction de tous les publics. On va d'ailleurs, c'est pas dans le programme, parce qu'on est en train de le monter avec justement le CLIC et un certain nombre de structures en charge des personnes âgées, aussi organiser un temps festif au théâtre pour les fêtes de fin d'année. Donc on est aussi en train de construire ça. Et sur la saison, enfin c'est à partir de janvier, il y a énormément aussi de partenariats en direction de publics très diversifiés qui sont mis en place, et notamment le jeune public avec les conventions qu'on a avec l'éducation nationale pour les collégiens, les lycéens, les écoles primaires. Donc voilà, tout ça fait partie du travail invisible mais bien réel mené par l'association dans le cadre de la gestion du théâtre.
Invisible, tu y vas un peu fort. On voit bien quand même que vous produisez de temps à autre des événements.
Oui, non, mais quand je dis invisible, c'est dans le sens que voilà, tout ce travail d'action culturelle, de sensibilisation, de médiation en direction des publics, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est pas forcément de la programmation en tant que telle, mais c'est pour moi ce qui est le cœur de notre travail, c'est comment faire en sorte que une offre culturelle qu'on espère de qualité, après on peut toujours se planter, faire des mauvais choix, ça arrive et c'est arrivé, j'assume pleinement la chose, comment une offre culturelle de qualité et diversifiée puisse rentrer dans la vie des habitants d'un territoire. Et pour ça, il suffit pas juste de faire des programmations, il faut aussi susciter le désir, donner l'envie du partage, de la curiosité, et ça passe par un travail qui souvent, effectivement, ne se voit pas forcément quand on feuillette un programme de saison ou d'une programmation particulière. Et moi, je considère qu'en tout cas, particulièrement sur un territoire rural, c'est absolument fondamental que ce travail-là soit mené, parce que sinon, pour qui on travaille ? On se doit de travailler pour la collectivité, et notamment pour les publics qui, si on n'était pas dans cette démarche d'action culturelle, de sensibilisation, de médiation, ne viendraient pas tout simplement au théâtre. Et donc on serait sur le fait de privilégier une catégorie de la population qui va naturellement dans les lieux de culture. Et donc bien sûr, on les oublie pas, ceux-là, ils ont tout à fait leur place. Mais ils ont le travail est déjà fait, si je puis dire. Et nous, le gros enjeu de notre travail, c'est de faire en sorte d'amener dans ce lieu et d'être confronté à ces propositions culturelles des gens qui, sans ce travail-là, n'y viendraient pas d'eux-mêmes. Et il y a tellement de barrières sociales, économiques, symboliques qui empêchent de franchir la porte d'un lieu de spectacle, par exemple, ou d'un lieu de culture, de manière générale, que ce travail-là est essentiel et fondamental.
Alors justement, petite parenthèse, si d'aventure quelqu'un de pauvre qui n'a même pas de quoi se payer un ticket se présente à un de vos spectacles, qu'est-ce que vous faites ? Vous le refoulez impitoyablement ou vous avisez ?
On applique les tarifs liés aux minima sociaux, donc c'est déjà une partie de la réponse. Après, c'est à voir sur place, voilà, c'est difficile de répondre comme ça à cette question. Après, ça va dépendre, la salle est archi complète ou pas. Donc, on essaie d'avoir la réponse la plus humaine, etc., qui en même temps fasse que ce type de situation ne se produise pas. Et pour ça, on a des partenariats justement avec Culture du Cœur, par exemple, à qui on offre un quota de places gratuites sur tous les spectacles qui sont accueillis au théâtre. Donc après, effectivement, si quelqu'un se présente comme ça, sans être dans aucun réseau ou justement concerné par Culture du Cœur, on va gérer ça au cas par cas, je dirais. Mais ce que j'insiste, c'est qu'on a mis en place des partenariats pour que justement des gens qui sont en difficulté financière et qui n'ont pas les moyens même de payer le prix d'une place en appliquant le tarif des minima sociaux, se tournent vers des organismes comme Culture du Cœur, où là, on donne des gratuités. Mais disons que c'est plus facile pour nous de gérer cette problématique-là quand on est dans le cadre d'un partenariat comme celui-là, parce qu'il y a aussi, de la part de Culture du Cœur, un accompagnement des publics, etc. Enfin voilà, qu'on est dans une démarche un peu plus structurée que la personne qui se présente comme ça et qui demanderait à entrer gratuitement, quoi. Voilà.
Je viens de découvrir sur internet un site qui s'appelle Ouigo, O-U-I-G-O, et c'est la SNCF elle-même qui brade les tickets qu'elle sent qu'elle ne vendra pas. D'accord. Est-ce que vous pourriez, le jour même du spectacle, mettre en ligne « Il nous reste 150 places, allez, on les fait à 3 euros ». Non, parce que vous espérez quand même qu'il y ait des gens qui viennent sans réservation.
Oui, et puis après, les places sont disponibles aussi sur des sites de réduction. Enfin, on met toujours un quota de places, par exemple sur Billets Réduc, qui est quasiment pas utilisé, jamais, parce que je pense que les gens ici dans le Divois, contrairement à dans les grandes villes urbaines, n'ont pas du tout ce réflexe-là. Mais donc,
je suis pas au courant, de quoi parle-t-il ?
Il y a un site, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs, mais le plus connu et le plus efficient dans le domaine du spectacle, il s'appelle Billets Réduc, et où le principe c'est que les théâtres donc mettent sur ce site des places à tarif réduit, voire super réduit, à disposition du public. Et donc les gens, il faut qu'ils réservent via ce site et nous on reçoit ensuite les réservations, etc. Et nous on le fait depuis le début. C'est pas du tout un outil qui est connu et utilisé dans le en tout cas dans le Divois, parce que quasiment jamais personne ne se présente avec une contremarque issue de Billets Réduc. Or par contre je sais qu'à Paris, Lyon ou Marseille, c'est un site qui marche du feu de Dieu et qui, où beaucoup de spectateurs vont réserver leur place via ce site-là pour bénéficier des réductions qui sont offertes. Donc ça, on le fait, mais c'est pareil, si les gens ça nous est arrivé de faire des... Je déteste le mot parce qu'on n'est pas un supermarché, mais en tout cas de promotion, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir un nombre de places à prix très très réduit. Voilà. Mais voilà, les gens ne l'utilisent pas.
Alors, encore une fois, Harold, il est possible d'envisager que personne ne sache que ce billet réduit existe. Moi, c'est la première fois que j'entends parler aussi.
Ouais. On le met sur nos documents de communication, mais après effectivement, si les gens savent pas du tout ce qu'il en est ou ont jamais été utilisateurs de ce site-là, c'est vrai qu'ils vont pas forcément avoir le réflexe d'aller voir dessus. Mais donc j'en parle pour que ça sache un peu plus.
Sait-on jamais.
En tout cas, on le propose. Enfin, c'est c'est des choses auxquelles on a déjà pensé et qu'on offre aussi au travers de ces outils-là, mais qui sont méconnus, manifestement. Voilà.
Et alors pour la suite, quand est-ce qu'on doit attendre les prochaines éditions de programme ?
Alors d'ici fin novembre, début décembre, la programmation de janvier à juin sera disponible sur le site du théâtre, donc www.théâtre-de-di.com. Et sinon, donc le programme papier en tant que tel sera disponible a priori courant décembre, si tout va bien.
Très bien, merci Harold d'être passé à la radio pour parler du programme de novembre-décembre et quelques autres nouvelles croustillantes. Je te remercie Harold, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Interview.
L'interview du jour.